Bonjour à tous. En tout cas, merci beaucoup. C'est quoi, Simon, mon travail là? C'est simplement de réchauffer l'ambiance, de souhaiter la bienvenue à nos amis belges qui sont venus en cohorte nombreuse de Wallonie. J'ai l'intérêt aujourd'hui, c'est que je vais démarrer, je ne sais pas exactement sur quoi, mais en tout cas, j'ai la possibilité de parler parce que la dernière fois, j'avais une conférence de prévue avec Simon. Hein, vous avez vu que c'est lui le chef d'orchestre qui organise la programmation. Et puis finalement, au bout des 3 jours, on n'a pas eu le temps de placer ma conférence. Donc c'est une conférence oubliée. Il dit, bon, Luc, tu la passes la prochaine fois, tu feras ce travail-là, etc. Bon, je vais essayer de faire un peu des liens. Et j'espère qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre la cohérence d'ensemble du projet. Alors peut-être que pour certains largement initiés par rapport à nos problématiques, vous allez vous ennuyer un peu. Pour d'autres, peut-être que ça va aller trop vite. Donc excusez-moi pour l'entre-deux qui n'est pas forcément facile à trouver. En fait, je ne fais pas de pédagogie différenciée, alors peut-être qu'il faudrait en faire. Je rentre directement ici par une question. Si on s'intéresse à la professionnalisation, il manque un titre là parce que je rentre dans un PowerPoint aux 3/4. Si on s'intéresse à la professionnalisation des enseignants, si on s'intéresse aux questions de formation, il me semble que l'importance, c'est vraiment d'arriver à faire cette formation de terrain, enfin en tout cas de former les personnes qui vont les accompagner au niveau du terrain, les tuteurs, les compagnons, les conseillers pédagogiques, mais aussi de réfléchir aux formateurs universitaires, avec des différences notables, mais il faut les spécifier. Et notre but, notre enjeu, c'est à la fois de vous former aux usages d'environnement de vidéoformation, d'environnement vidéo numérique, si vous préférez, mais également à la transformation de l'activité étudiante. Donc c'est vraiment de comprendre éventuellement les interactions, les usages, les effets générés par l'usage de plateformes, mais ensuite de réfléchir un peu à la façon d'accompagner ces enseignants débutants au fil de l'eau dans les établissements ou au contraire dans des centres de formation. Alors, c'est vite fait, hein, mais c'est simplement pour problématiser un peu et rendre pertinente ma première intervention, qui était celle de rentrer par la connaissance des enseignants débutants. C'était la commande qui m'était faite quand même. J'essaye de justifier ma présence ce matin. On peut imaginer, j'ai commencé à faire une sorte de petit catalogue ou de liste de compétences, non pas pour vous mettre la pression, pour vous faire culpabiliser, mais il me semble que pour que des personne puisse accompagner les premiers pas professionnels. Il y a peut-être un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte pour faire une véritable formation. Et on espère avec l'équipe ici que dans les années à venir, on va pouvoir, de façon bien plus satisfaisante, former les débutants, puisque notamment en France, depuis quelques années, c'est complètement catastrophique. On les lance sans formation professionnelle dans le grand bain. Et il nous semble qu'il y a des prérogatives, des conditions à réunir avant, et que cela nécessite une formation de formateur, une vraie formation de formateur. Donc, pour se familiariser aux différents usages des ressources vidéo, et je pense que là, dans les 2 jours, il y aura des pistes par rapport à ça, être sensibilisé aux effets de la vidéoformation, avec des principes éthiques, méthodologiques, déontologiques par rapport à l'image, par rapport à ce que ça génère, par rapport à cette fugacité de l'activité visionnée, qu'est-ce que ça génère, quels sont les risques possibles, est-ce que ça suffit de regarder une vidéo pour être formé, enfin vous voyez toutes les questions qui apparaissent, et la première, en tout cas celle-là, est très naïve. Et moi, il me semble aussi qu'il faut faire un effort de compréhension de ce que sont les enseignants débutants avec des étapes de développement. Et c'est un peu sur ce point-là que je vais essayer de m'arrêter ce matin, en tout cas sur, pas toute la matinée, rassurez-vous, mais en tout cas sur cette première tranche d'intervention. Il me semble également qu'il y a tout un travail à faire sur les conseils pédagogiques, la nature des conseils pédagogiques, les effets pervers, délétères des conseils en cascade pour éventuellement hiérarchiser les conseils. Il y a tout un travail à faire sur ce point-là. Et une hiérarchisation des conseils nécessite certainement de prendre en compte le développement des enseignants débutants. S'ils sont à des niveaux différents d'appréciation de l'environnement scolaire, d'effectuation dans la classe, on ne peut pas donner les mêmes conseils. Il y en a peut-être certains qui priment par rapport à d'autres, qu'il y a peut-être des détails dont on pourrait se passer, qui malheureusement polluent peut-être l'environnement ou en tout cas le message qu'on veut faire passer aux débutants. Apprendre donc à proposer des projets de transformation réalistes, et puis peut-être, et c'est aussi une de nos problématiques dans ce groupe, c'est à la fois de tenir ce double enjeu d'une viabilité de l'activité novice pour l'accompagner et donner des pistes viables pour éviter ces conseils inatteignables, mais en même temps tenir une exigence par rapport au savoir enseigné. Donc on est bien, vraiment, j'insiste une première fois ici, dans cette double valence d'exigence où on veut à la fois ne pas lâcher les contenus d'enseignement, ne pas avaliser la médiocrité, mais au contraire, proposer un projet réaliste en prenant en compte la difficulté, le monde réel des débutants. Ça va ? Bien sûr, il y aura peut-être quelques questions à la fin. Je vais passer un peu vite et je pourrais vous donner le diapositive si ça vous intéresse. C'était simplement pour dessiner mon projet et sans trop courir sur la présentation que je vais faire, je vais donc prendre un peu le temps de réfléchir à ces enseignants débutants et au développement. Et je vais essayer de repérer un certain nombre d'angles d'attaque par rapport à la perspective de compréhension de l'activité débutante. Je veux en faire un objet d'étude et un objet de formation. Comprendre le développement professionnel, c'est quoi le développement professionnel ? Je vais partir sur une toute petite vidéo que certains connaissent déjà, mais qui me semble assez significative du développement professionnel d'un enseignant débutant. Et il me semble que la façon de l'investiguer donne des clés en tant que formateur pour pouvoir éventuellement travailler sur ce développement-là. Si c'est complètement ésotérique ce que je raconte, n'hésitez pas à lever la main en disant « Luc, tu parles de quoi là ?» On est sur ce point-là, il faut vraiment qu'il y ait un peu d'interactivité. Et puis, je crois que c'est aussi une des caractéristiques de notre marque de fabrique, hein, Neopass Action, et du groupe qui travaille autour de ce projet. C'est vraiment de faire en sorte que la recherche ne soit pas asservie, mais propose un certain nombre de résultats, propose des modélisations au service de la formation. Donc c'est de la recherche en éducation à des fins de formation. On est dans cette perspective-là, dans une sorte de didactique professionnelle large, sans forcément être tous du courant de Pastré, mais on est bien sur cette didactique d'analyse du travail à des fins de formation. Pour, si ce n'est modifier les caractéristiques même du travail, permettre aux débutants de s'y adapter le mieux possible. Non pas forcément pour produire une plus grande rentabilité au travail, et c'est là aussi qu'il y a un enjeu un peu pervers, et peut-être un gap de compréhension par rapport à notre objet de recherche, mais c'est de pouvoir faire en sorte que les débutants reprennent la main sur leur travail, comprennent leur travail, se dotent d'outils réflexifs, de boussoles expérientielles, pour pouvoir, au fil de l'eau, devenir de plus en plus autonomes. Mais peut-être qu'il faut les aider un peu au départ quand même. Bon. Alors, je vais être très rapide, hein, laconique. Si on s'intéresse au développement professionnel, il y a des travaux historiques. Je ne fais que les survoler parce que vous les connaissez pour la plupart. Et puis si, je pourrais vous laisser les diapos, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt là. Mais c'est simplement pour inscrire mon travail aussi quand même par rapport à des gens qui ont travaillé sur ces questions-là. Huberman qui insiste sur différentes étapes, hein, vous connaissez ses travaux, j'imagine. En 89, donc relativement récent, ancien maintenant. Où, en tout cas, on voit bien cette étape de survie et de découverte sur les premières années. Alors, après, ça a été repris, controversé, avec des différences subtiles. Notamment, il y a eu un certain nombre de travaux de Fuller, de Beetz, aux États-Unis, qui ont parlé des concerns et qui ont vu qu'en fonction des disciplines, il peut y avoir vraiment des différences en termes de développement professionnel. On voit donc quand même plutôt une phase, un choc de l'entrée dans le métier. Alors là, c'est décliné par multiples auteurs avec vraiment des différences vraiment intéressantes à identifier. Et puis ensuite, une sorte de stabilisation professionnelle. On voit ensuite des moments d'expérimentation, d'engagement, et puis de phénomène d'usure en fin de carrière. Alors ça, c'est pour moi, il faut repartir de ces modélisations-là, mais qui datent, et qui correspondent plus forcément à la réalité même des enseignants qu'on observe, puisque je vais un peu vite, hein, je provoque un peu, mais on voit des jeunes profs qui sont très vite, qui se sont développés professionnellement très vite. Et il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce développement professionnel, pourquoi il y a eu cette adaptation rapide à un milieu qui est pourtant a priori hostile ou pas facile, notamment dans le second degré, dans les établissements d'accueil. Pourquoi certains se stabilisent très vite dans des situations professionnelles? Pourquoi d'autres, au contraire, vivent très tôt des phénomènes d'usure? Dès les premières années, dès les premiers mois, on voit des signaux précoces d'usure, de fatigue, de protection de soi. Et il me semble que ce que l'on voit ici décliné sur 40 ans ou 37 ans, on peut pratiquement considérer que dans une année de jeune prof, on a ces étapes-là, on a ces cycles-là d'instabilité, stabilité, d'usure, de fatigue, d'expérimentation, d'engagement, etc. Donc j'aurais tendance à relativiser beaucoup ces travaux développementaux pour pouvoir regarder in situ ce qui se joue dans ces établissements un peu difficiles. On peut reprendre une autre modélisation, puis j'en resterai là dans les références à des auteurs connus. 1996, avec Marc Durand, sur l'enseignement scolaire, en milieu scolaire. Vous avez cette déclinaison qui me semble intéressante. Alors, bon, je passe pas 3 heures à l'expliquer. Il considère qu'il y a des préoccupations qui sont hiérarchiques et que comprendre le développement professionnel des enseignants, c'est peut-être identifier quelles sont leurs principales préoccupations. Pour le dire autrement, à l'envers, les préoccupations sont certainement révélatrices de leur développement professionnel. Lorsqu'un jeune prof dit « j'ai l'ordre en classe, ça va, je suis satisfait », on voit bien son niveau d'exigence, on voit bien ses attentes et on voit bien à quel niveau du développement il se situe. Même si après, je vais largement critiquer cette perspective hiérarchique développementale telle qui est proposée ici. Mais malgré tout, ça organise un peu quelque chose qui est cohérent. On voit qu'ensuite, une des préoccupations de rang supérieur, c'est la participation de tous les élèves, visant l'engagement de tous dans des tâches scolaires. Ensuite, on voit plutôt une sorte de préoccupation liée au travail, le travail qui serait un travail adapté cette fois-ci, de façon globale à l'ensemble des élèves, la participation étant un rang inférieur en termes d'engagement, sans forcément discerner l'intérêt des tâches. Et puis ensuite, peut-être un niveau d'apprentissage plus exigeant, plus difficile à évaluer, avec réellement une acquisition de la part des élèves, éventuellement des principes de différenciation de ces apprentissages en fonction de l'hétérogénéité de la classe. Et puis ensuite, une exigence de développement d'éducabilité, où on s'intéresse plutôt... Il y a des gens qui vont avoir des torticolis à tourner la tête comme ça, là. Je sais pas comment vous allez faire. Il y a peut-être des places, hein, enfin, vous pouvez venir là, hein, si vous voulez. Donc, pour revenir dans mon propos, on voit cette organisation hiérarchisée des préoccupations, avec certainement un niveau moyen qui est un niveau de travail, puisque les enseignants au quotidien, en fonction évidemment de leur niveau d'exigence, mais aussi de la difficulté à enseigner donc des publics devant eux, vont de façon globale être sur du travail, en sachant qu'il y a des enseignants qui sont à un niveau d'exigence supérieur et que parfois, dans sa semaine de travail, dans sa journée de travail ou dans son année, il va y avoir une fluctuation des exigences. Mais pour Marc Durand, et par rapport aux études qu'il a mobilisées, le niveau médian sur le niveau travail de la classe, où tout le monde a une tâche, sans forcément... être sûr des apprentissages de chacun dans la tâche. Donc, on voit ici une déclinaison possible et une sorte de distinction, de discrimination entre les débutants et les experts. Et en tout cas, tous les travaux que je mène depuis quelques temps avec une équipe travaillant sur les enseignants débutants montrent qu'il y a vraiment des inversions possibles. Et je pourrais passer une demi-heure, mais je ne vais pas le faire, à discuter ce schéma-là. Par rapport au fait qu'on voit des débutants qui sont déjà à un niveau d'exigence très haut, on voit des expérimentés qui, si on les déplaçait devant un public plus hétérogène, seraient eux-mêmes en difficulté ou seraient eux-mêmes débutants, peut-être pas pendant 3 mois, peut-être pas pendant 6 ans, mais qui auraient besoin de se repositionner, de restabiliser leur activité. Et puis après, vous voyez que, pour les gens qui connaissent un tout petit peu les travaux que j'ai pu développer, et puis par exemple l'illustration avec Romain sur Néopass Action, on voit que si on est dans une sorte d'attitude ostentatoire d'attente de l'ordre en classe, ça peut durer des années, et que s'il n'y a pas une reprise en main de soi pour pouvoir assez vite mettre les élèves au travail, on n'obtiendra jamais l'ordre nécessaire à cela. Donc on n'obtiendra jamais les conditions nécessaires à cela. Donc on voit qu'ici il y a des inversions, et ça pose, je bouscule un peu cette hiérarchisation un peu trop bien établie ici, pour montrer que finalement le travail peut être vraiment... doit être premier pour que l'ordre devienne la conséquence du travail, non pas l'inverse. Et donc, il faut être vigilant par rapport à ce type de modélisation. Bon. Alors, tiens, d'ailleurs, ça, c'est un texte qui vient de... J'avance un peu, mais sur une évaluation qualitative des enseignants de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Et on voit ici des éléments qui apparaissent dans cet état des lieux sur le choc de l'entrée en classe, le choc de la découverte du premier groupe. La première image du prof est cruciale, elle est quasiment indélébile, le premier regard forge la réputation, etc. Et c'est vrai que même dans les rapports les plus sérieux, et là il y a vraiment un rapport très intéressant, on voit cette, régulièrement cette représentation d'un début qui est déterminant et quasiment irréversible. Et d'ailleurs dans les IUFM pendant des années, j'ai vu des jeunes profs qui disaient « si on loupe les premières heures, si on loupe les premiers pas, c'est fini ». Et c'est quasiment fini à vie. Enfin, on a eu ça régulièrement. C'est pour ça qu'on a eu des Patrick Rayoux, des Frédéric Souja qui réagissaient en disant « Mais non, mais c'est pas parce qu'elle a tout ça, c'est pratiquement enterré que c'est définitif. » Et tous nos travaux montrent le contraire, montrent du développement. Et c'est pour ça que je veux prendre un peu le temps de réfléchir à ces questions de développement. Alors, je vais vite parce que je suis effrayé de voir l'heure qui tourne. Il me faudrait 4 heures pour faire cette intervention. Et je n'ai plus que 10 minutes, enfin à peine. Non, j'exagère un peu, mais j'essaie de me mettre la pression, en fait. Le but, c'est d'arriver à pister le développement professionnel sur des temporalités longues. C'est la marque de Neopass. Cette année, on va aller avec Christian, derrière la caméra, filmer Romain, qui est en lycée maintenant, lycée d'élite, pour voir aussi les sauts, les pas qualitatifs de Romain par rapport à un autre public, hein, public d'excellence. On les suit sur plusieurs années, sur plusieurs, j'espère, dizaines d'années. Enfin, j'en suis pas encore là. Nous, on sera tellement vieux qu'on pourra plus tenir la caméra. On est vraiment donc sur plutôt les débutants en milieu difficile parce qu'ils nous semblent pertinents. Alors, pourquoi, hein? C'est pas parce qu'on travaille avec le centre Alain Savary, qui est un centre dédié aux enjeux et aux problématiques de l'éducation prioritaire, et que c'est pour moi, depuis des années, un endroit, un observatoire pertinent, puisque vu qu'ils sont vraiment, de fait, lancés dans des conditions difficiles, ils sont obligés d'avoir très rapidement, de déployer très rapidement des stratégies de survie, d'adaptation. Et on voit beaucoup plus de développement par rapport à ces jeunes enseignants que dans des conditions d'exercice plus faciles, plus tranquilles, dans la lignée pratiquement de leur IUFM ou de leur formation initiale, si tant est qu'ils aient eu une formation initiale. J'avance. Et donc pour nous, c'est d'arriver à considérer que ce qu'on va pouvoir repérer dans le développement, c'est à la fois un outil pour les formateurs pour bien comprendre ce qui se joue lorsqu'il y a du progrès, lorsqu'il y a de la progression. Et en même temps, il nous semble qu'on peut modéliser, et c'est le cas par exemple de Christine Félix, hein, ici présente, et de Laurence, hein, qui ont travaillé sur le thème 2, 3 ou 2, je suis perdu là ce matin, 2 de Neopass Action sur l'aide aux élèves. Et on voit bien qu'avec Guillemette, on a également un suivi longitudinal. Et on part du principe que cette modélisation par la recherche de ce développement peut certainement permettre aussi à des débutants de se mettre dans la peau de ces jeunes enseignants, de repérer les attentes et les transformations même de l'activité enseignante pour qu'eux-mêmes s'interrogent sur leur capacité à bouger, à saisir d'autres repères dans l'action. Donc, présentation d'activités de pair pour favoriser des changements de focale, des changements de pratique, des prises de conscience. La transformation des enseignants débutants est lente, elle est imprévisible, on ne peut absolument pas la déterminer, ou en tout cas, toute tentative de détermination est vaine. Ce n'est pas parce qu'on va énoncer des règles du métier qu'on va les imposer comme cela, qu'il va y avoir forcément appropriation de ces règles-là. Alors, deux mots sur l'observatoire, mais bon, on va en parler pendant deux jours et vous connaissez un peu, c'est très schématique. Cet observatoire sur le thème 1 qui était au départ parisien, autour de ces établissements parisiens, donc éducation prioritaire, c'est largement élargi. On en est actuellement à une dizaine d'enseignants-chercheurs, voire plus, travaillant, recueillant des données dans le premier degré, dans le second degré. Donc on a Marseille, Montpellier, Lyon, Dole. Donc vous voyez qu'on n'est pas exactement sur les mêmes centres et les mêmes... Même taille d'échelle en termes de Toulouse, Clermont, Paris, Lille. On va avoir bientôt, dans quelques semaines, un thème sur la gestion des conflits qui est vraiment en cours, en fin de fabrication. Donc des observatoires d'activité, des spécialistes du travail enseignant qui observent, qui créent ces recueils et qui essayent de comprendre ces développements sur plusieurs années. Et cette ressource que vous commencez à connaître maintenant, je peux résumer en trois mots. C'est 8 laboratoires de recherche en France qui s'attachent maintenant à développer des ressources pour la formation. On va arriver à 700 extraits vidéo, ce qui pose vraiment des problèmes après de tri, de sélection, de connaissance même des matériaux qu'on développe. Que faire d'une telle quantité? Comment faire pour pouvoir, en tant que formateur, mobiliser les bonnes ressources? D'ailleurs, y a-t-il des bonnes ressources? 6 thèmes bientôt, 10 000 abonnés, voire plus, avec actuellement une demande d'une quinzaine de formateurs, c'est ça, par journée, tu dis ?
20 000 abonnés.
20 000 abonnés. Pff, Luc, t'es complètement dépassé. 500 visites par jour, Luc, 1000 visites par jour. Bon, vous voyez, ça change toutes les 15 secondes. Voilà. La méthodologie, vous la connaissez aussi, je la répète en deux diapositives, c'est on filme, et de plus en plus en qualité. Avant, c'était vraiment un travail ethnographique avec une petite caméra qui se promenait, avec des vidéos qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Grâce à Christian Bailly, maintenant, il y a vraiment un travail de qualité, une exigence qui est là. Et puis après, tout un travail où on s'intéresse au vécu, non observable, mais explicitable, pour comprendre les phénomènes vécus par les enseignants débutants. Et pour nous, c'est ça notre marque de fabrique, encore hein, notre label, c'est comprendre le monde des débutants pour mieux ensuite les aider en formation. Je me permettrai, je sais que j'ai pas le droit, de faire une toute petite digression. J'ai vu il y a pas très longtemps, sur France 2, un reportage par rapport à des personnes en fin de vie, des personnes invalides. Peut-être que vous avez vu ce reportage-là. Et par rapport aux formateurs qui s'agacent par rapport à la lenteur, par rapport à la difficulté d'intervenir par rapport à ce type de public, de personnes invalides, ils leur ont fait vivre une expérience qui est assez marquante, un peu spectaculaire, mais que je trouve qu'il va bien dans le sens de ce que j'essaye de dire aujourd'hui, en les mettant dans des sortes de vraiment de pratiquement de tenues de scaphandriers très rigides, avec une réduction de l'amplitude des mouvements, avec ensuite des lunettes opacifiantes, pour essayer de les mettre un peu dans le monde de ces personnes en fin de vie ou invalides, pour agir, pour se déplacer aux toilettes, pour faire sa toilette, etc. Donc ça a été une expérience probante, et toutes les personnes qui étaient donc accompagnateurs ici de ces personnes en fin de vie ont dit, mais effectivement, régulièrement, on s'agace de voir le comportement de ces personnes-là, qui ne vont pas assez vite, qui n'obtempèrent pas par rapport à nos consignes, et que le fait de les plonger dans une sorte, de façon artificielle, hein, dans cette façon d'être en fin de vie, avec ces expériences, ces phénomènes limités, ça leur a permis vraiment de complètement orienter autrement leur interaction avec ces personnes-là. Bon, c'est un peu peut-être schématique, mais ça montre bien, et c'est une de mes préoccupations, et le groupe partage cette préoccupation-là, c'est de comprendre le monde des débutants pour pouvoir mieux les aider, pour se mettre un peu dans leur peau. Vous avez été vous-même débutant, mais vous en souvenez pas forcément, et qu'il faut faire cet effort d'empathie et de compréhension de l'autre. Alors, quel débutant ? Quel développement ? Vous avez donc un certain nombre de propositions sur la plateforme, hein, 6 mois après, 3 années après. Je vais simplement, sur une toute petite vidéo, et m'intéresser au cas de Lucie. Alors, certains connaissent déjà cette vidéo, je vais la commenter. Simplement par rapport à la vidéo, je contextualise un peu pour les gens qui ne connaissent pas. On est sur le thème 1, sur la mise au travail des élèves. Et cette enseignante était en tout début d'année de sa première année de néo-titulaire. Je donne quelques éléments factuels. Déjà très efficace dans sa maîtrise de la situation. On est donc dans notre thème 1 avec Lucie, professeure de mathématiques. Et on est sur l'activité 4, qui est une activité débutante déjà impressionnante de maîtrise. Et je voudrais donc Lucie, on travaille régulièrement avec elle, regarde son activité 3 ans après, et c'est intéressant de voir comment elle l'analyse, elle l'évalue. Alors moi, là, je suis pratiquement dans une sorte de retrait, et je la laisse commenter son activité et de montrer les différences, les variations par rapport à ce qu'elle a vécu. Et je vais essayer de faire apparaître un certain nombre d'éléments, et je vais essayer de creuser un peu avec vous le vécu professionnel, les gestes d'enseignement, les configurations d'activité et les modes d'être à la situation. Et pour moi, ce sont des indicateurs du développement. Alors, ce sont des indicateurs indigènes, puisque c'est elle qui les a exprimés, et c'est moi qui les reproblématise en tant que chercheur.
Bon, alors le sas d'entrée, tout le temps, ça je le fais.
Ça va ?
Je fais le sas d'entrée à chaque début de cours, matin, midi, soir, tout le temps. Enfin, c'est quelque chose qui me paraît vraiment nécessaire et qui permet un certain contrôle et une prise en compte de chaque élève individuellement que je salue. Et je pense que c'est vraiment important ce moment-là. Donc ça, vraiment, c'est à chaque début d'heure, c'est comme ça. Là, je suis passée devant. Soit juste devant le bureau, enfin entre les premiers rangs et devant le bureau, ou soit maintenant même j'avance dans les rangs et je prends des bains de foule un peu pour occuper le terrain et enfin voilà, je suis dedans. Et puis l'élève qui, quand je suis derrière le bureau, se permet de se retourner ou de pas faire ce que je lui demande, quand je suis à côté de lui, il le fait.
Assaf, s'il te plaît, tu te tais. Ok, qu'est-ce qui veut bien aller corriger les exercices au tableau? Vas-y, Brian.
Par contre, ça, je le fais de moins en moins, d'envoyer les élèves au tableau. C'est un tort, mais... Enfin, je pense que c'est un tort, en tout cas. Mais ça va plus vite quand je le fais. Souvent, il n'y en a pas beaucoup qui veulent y aller cette année par rapport aux années précédentes où j'avais plus de volontaires. Et ça m'arrive d'envoyer des élèves au tableau vraiment quand je pense que c'est nécessaire et que ça peut nous faire gagner du temps. Mais je le fais de moins en moins de les envoyer corriger au tableau. Et ça reviendra.
Pendant ce temps-là, je vérifie que les exercices sont faits.
Ça non plus, je le fais plus. Parce que ça me prend trop de temps, que ça m'énerve, que ça me fatigue, que c'est une gestion de fou, que de toute façon, c'est toujours les mêmes qui font pas leurs exercices, et du coup, au bout d'un moment, ils arrivent à avoir des punitions qu'ils font pas non plus, et c'est fatigant, en fait. Mais encore une fois, j'ai conscience que je devrais pas lâcher et que en lâchant, je ne fais qu'encourager leur fainéantise et leur manque de travail personnel. Je baisse un peu les bras sur un certain nombre de points parce que ça coûte énormément en gestion et que j'ai des millions de choses à gérer dans ma tête et que si je donne des punitions, que j'oublie de vérifier que c'est fait, je suis plus crédible. Donc il y a des moments où je donne pas de punitions, je préfère. Parce que les exercices sont pas faits. Maintenant, je sais que c'est un truc qu'il va falloir que je remette en route parce que je pense vraiment que c'est un bon système, en fait.
Donc, en fait, si, pour les gens qui comprennent pas bien ce qui s'est joué là, on s'aperçoit, je redonne quelques éléments, hein, pour les gens qui connaissent pas la vidéo de Lucie, elle s'organisait de la façon suivante. Et puis, je vais commenter un peu maintenant ses propos. Elle mettait en place un sas d'accueil avec ce passage du dehors au dedans, du couloir agité au sanctuaire de mathématiques. Et on voit vraiment comment tous les débutants, de façon intuitive ou au contraire en observant les autres, s'attachent à développer ce type de pratique. Transition, canalisation. Ensuite, elle avait une sorte de comme d'habitude très ferme en tenant sur trois règles qui étaient énoncées systématiquement. Comme une sorte de leitmotiv, les élèves étaient debout, attendaient son signal, et ensuite devaient s'asseoir en mettant le cartable non pas dans le dos pour éviter éventuellement les retournements, mais sur le côté. C'était pour elle une marotte qu'elle tenait systématiquement pour toutes ses classes. Et au bout de quelques instants à peine, sans autre préalable, les élèves étaient au travail en train de recopier les exercices qu'ils avaient fait la veille, et elle en profitait pour aller vérifier le travail individuel. C'était un format, et je vais insister sur cette notion de configuration d'activité, très efficace, qu'elle reconnaît efficace, puisqu'elle en reparle 3 ans après, comme c'est le bon format pour vérifier le travail scolaire, avec cette activité conjointe. Et j'aimerais insister 2 minutes quand même, en tout cas je vais y revenir régulièrement, sur cette structuration de l'activité des élèves qui favorise la structuration de l'activité de l'enseignante, sur cette co-dynamique, faisant qu'à un moment donné, ce qui peut être un face-à-face anxiogène par rapport à des élèves agités qui n'ont pas d'activité et qui peuvent aller dans plein de tâches diverses, cette structuration très rapide de l'activité des élèves lui laissait des espaces d'intervention, d'action, de vérification, etc. Donc c'est bien ce couplage-là qui me semble être tout à fait efficace dans la situation. Alors, elle dit, je pointe ces éléments-là et puis je vais les décliner après de façon plus spécifique. De façon plus spécifique et plus générale après. Le SAS d'entrée me permet le contrôle et la prise en main individuelle des élèves. Donc pour elle, 3 ans après, ce geste-là, il est robuste, il est toujours là, ça vaut encore pour sa pratique. Et c'est bien son expérience et la validation tous les jours qui la convainc de continuer comme cela. Le mode d'être à la situation, j'ai vu quelques sourires. Je prends des bains de foule pour occuper le terrain, pour être dedans, entre la position derrière le bureau et ce qu'elle s'autorise à faire. Alors, mais bien évidemment, c'est pas 3 ans après, ça s'est fait progressivement, ça s'est fait dès les premiers pas peut-être. Mais on voit que maintenant, dans sa modalité d'être prof, elle s'autorise d'autres dispositions à agir. Configuration d'activité, je viens d'en parler, je viens de la décrire. C'est le format idéal pour la correction des exercices. Vécu professionnel, mais cela me prend trop de temps, ça m'énerve, ça me fatigue, c'est une gestion de fou, j'ai conscience que je ne devrais pas lâcher, ça encourage leur fainéantise. Et là, dans notre projet scientifique et aussi de formation, on prend au sérieux ces paroles. On prend au sérieux le fait que des jeunes nous disent « on ne sait pas faire, on n'y arrive pas, on est mauvais », voire que des plus chevronnés fassent les mêmes constats. Là, on est, enfin, qu'on soit clair, hein, je veux dire, on fait de la recherche pour comprendre le travail enseignant, on n'est pas pour énoncer systématiquement la bonne pratique. On essaye de repérer l'expérience au travail et de prendre cela au sérieux. Donc on peut dire des choses qui sont pas forcément tout à fait dites de la sorte devant un inspecteur, devant un formateur, devant un évaluateur, mais pour générer du dialogue, générer de la transparence et faire en sorte que les débutants acceptent de parler de leurs difficultés. Difficultés ponctuelles, difficultés provisoires, pour aller vers un vrai projet réaliste de transformation. Là, si on s'intéresse à l'expérience, si on s'intéresse à ces éléments-là, ben, il faut qu'on accepte qu'une jeune prof nous dise « j'en fais moins » ou « je suis usé par ce type de format parce qu'il est coûteux et j'ai plein de choses dans la tête m'empêchant de le faire correctement ». On prend ça au sérieux. C'est pas une feignante. C'est une collègue exceptionnelle qui mérite aussi d'être aidée, d'être accompagnée. Alors, si je reprends ces quatre clés que j'ai essayé de dessiner rapidement, je vais pouvoir aller assez vite sur les diapositives, vous avez compris mon discours, mais je vais quand même boucler. Il me semble que ces gestes d'enseignement, ils sont importants et que trop souvent, ce sont des gestes invisibles ou tellement dans l'action qu'on aurait tendance à les oublier, comme avec un artisan qui a des tours de main, qui a des façons de faire le métier. Et vous, forcément, du fait de votre expérience, du fait de votre capacité aussi à visionner des vidéos et à bien connaître le travail enseignant, vous repérez, vous les connaissez, ces gestes. Dernière fois, il n'y a pas très longtemps, lors d'une autre intervention, j'ai demandé dans la salle de me donner des gestes de métier qui étaient pour eux tout à fait pertinents et qu'on pourrait donner à des jeunes. Alors, il y avait 25, ça c'était vraiment intéressant. J'aurais demandé des gestes transversaux et puis des gestes liés à la discipline enseignée. Et si j'étais les yeux comme ça, alors il y avait plein de choses, j'en prends un qui me revient comme ça, mais je rentre pas dans les détails. Dès que j'ai une interrogation d'élève et que je vais demander à un élève de venir, systématiquement, je vais au fond de la classe, ce qui me permet à la fois de contrôler les élèves, de voir si la parole passe, si c'est suffisamment fort pour que tous les élèves puissent écouter. Je regarde le niveau d'écriture, une sorte de geste professionnel simple, mais qui est vraiment pertinent et qui permet à la fois de réguler le groupe et de vérifier les conditions favorables de l'apprentissage. Bon, et on en a plein comme ça de gestes professionnels dans la valise. Est-ce qu'on peut simplement les retenir ou les mettre de côté, considérer que c'est pas important et pas les donner aux débutants ou pas travailler avec eux sur ces questions-là? Il y a de la singularité par rapport à ces gestes-là, mais aussi de la généricité. J'ai pas trop le temps parce que j'aurai plein de vidéos à vous montrer, mais ces gestes, ils sont transparents et il faut qu'ils soient ensuite cousus sur mesure, à sa main. Et il y a des variations fortes de façon individuelle. On ne s'empare pas d'un geste, on ne s'approprie pas un geste comme cela. Mais dans la co-observation, je vois beaucoup d'enseignants débutants qui disent « Oh, j'ai vu ça, je pique ce geste sur le vif et j'essaierai de m'en emparer la fois prochaine. » Bon, finalement, ça marche pas si bien que ça. Ou ça marche pour moi à condition que je fasse ça, ça et ça. Donc ça transforme un peu le geste, je l'ai fait prudemment, mais je me suis approprié autrement le geste. Donc là, il y a forcément une appropriation, et il me semble que dans un travail de transaction avec un tuteur ou un formateur, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis il me semble qu'un geste doit être visible, non ambigu, non ambivalent, avec une visibilité ostentatoire. Si à un moment donné, on veut faire un signal fort, si on veut être compris en faisant ça, ou en faisant ça, ou en faisant ce que vous voulez... J'arrête mes gestes. On s'aperçoit que les élèves sont tout de suite capables de reconnaître ces gestes-là. Et j'étais assez amusé en suivant des classes, parfois, de voir que ce geste-là avait une signification pour un prof. Une heure après, on avait le même geste, mais avec une autre signification. Et que les élèves, très bons décodeurs, comprenaient très bien comment ça marchait. À condition que ça soit ostentatoire, visible, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport au geste. Il ne me reste plus que 3 minutes d'intervention. Deuxième point, qui reste 15. Ouais, c'est bon. Ouais, mais vous m'avez commencé un quart d'heure après, hein, donc bon, je vais. D'accord, non, mais ça marche, pas de problème. On va vérifier les plannings. Deuxième point, ces activités, je viens d'en parler, je vais vite alors, il me semble que là, il y a vraiment à réfléchir sur la façon dont l'activité enseignante structure l'activité des élèves et inversement, et qu'on peut, dans l'analyse que l'on va faire des débutants, repérer ces contentions et éventuellement ces situations qui ne stabilisent pas, qui ne sont pas suffisamment contraignantes d'un point de vue cognitif et corporel pour les élèves. Si je prends deux exemples très, très vite, la situation du cours dialogique est une situation à haut risque pour des débutants, puisqu'il faut écouter des réponses, lancer des perches, donner des indices, écouter une réponse, l'interpréter et s'apercevoir que ça correspond exactement au contraire par rapport à ce que l'enseignant pensait. Donc il y a tout un travail qui est complexe et les élèves ne sont absolument pas occupés, délivrent des savoirs morts, des réponses tacites, etc. Donc c'est vraiment une situation qui a haut risque. Une situation écrite, bien évidemment, je ne suis pas en train de prôner les situations écrites, mais on voit bien ici, on fait un constat très simple, qu'à ce niveau-là, les élèves sont occupés, sont a priori occupés sur un travail avec un enjeu spécifique en didactique de la discipline, ou en tout cas par rapport à un programme, et le prof, lui, a la possibilité de faire autre chose. Donc je crois que dans cette stabilisation nécessaire, dans cette recherche de stabilisation, quand vous avez un débutant qui entend dire par sa conseillère pédagogique, mais tu vois par exemple, là, quand tu es dans cette situation-là, que tu es en train d'installer le vidéoprojecteur, que tu es en crise de temps, que tu as 25 choses à faire, tu dis simplement aux élèves, s'il vous plaît, comme d'habitude, vous regardez votre cours, je vais interroger deux personnes dans la classe, vous avez 5 minutes pour vous remettre dans le cours, je sais que vous l'avez vu à la maison, mais que là, maintenant, vous vous replongez dans le cours, il y aura deux questions. Bon, c'est tout bête, tout le monde connaît ça par cœur, mais on voit que c'est une solution pour pouvoir... Et le jeune prof dit, ah, ça, c'est une bonne idée, tiens, je prends des notes pour une fois. Et là, il commence à noter cette solution-là, parce que ça stabilise son activité, celle des élèves. Bon, je reviens pas sur l'activité de Romain, vous la connaissez, comment progressivement, au bout de 6 mois, il a réussi à complètement stabiliser son activité en jouant sur les médias, en étant attractif, en étant vraiment capable d'enrôler les élèves très tôt, dès la porte d'entrée. C'est caricatural, mais ça montre bien ce mouvement de stabilisation. J'avance, j'aurais voulu vous parler longtemps des dilemmes, parce que maintenant, je viens de faire gestes d'enseignement, configuration plus large d'activités comprenant des gestes d'enseignement. Et là, ce vécu professionnel, il y a des émotions fortes d'enseignants débutants. Il y a des dilemmes de débutants, j'y reviendrai pas maintenant. Mais il y a aussi des dilemmes caractéristiques du travail enseignant. Et là aussi, soyons vigilants pour essayer de faire la mesure entre des dilemmes de débutants où il va y avoir une sorte parfois de confusion entre un vrai dilemme où il y a une alternative à prendre et des situations où il y a des préoccupations synchrones, ça va ? C'est-à-dire plusieurs préoccupations en même temps, qui ne sont pas forcément tenables dans l'instant, alors qu'un chevronné est capable de les tenir. Mais pour un débutant, les vrais dilemmes de débutants sont ces situations de pluriactivité au sein même d'une activité, ou de pluri-orientation par rapport à une activité. Alors, ça, vous connaissez, donc je passe, vous verrez sur la plateforme. Et donc, en fait, c'est... Plus ça va aller, plus je vais être frustrant et moi-même étant complètement frustré, ça va être assez compliqué de terminer cette intervention. Mais vous m'avez dit qu'il restait 5 minutes. Oui, mais ça c'est un peu paradoxal comme injonction. Alors, je...
Il te reste 10 minutes, mais si tu dépasses, c'est pas grave.
Non, mais c'est l'enseignant débutant qui gère pas son temps. Vous voyez, ça arrive à tous les âges. Ouais, c'est une régularité, c'est ça. Donc, et là, je partage complètement cette belle expression de Patrick Picard, et il y en a d'autres, hein, sur problème de débutant, problème de métier. Je crois qu'on est bien sur ces problématiques-là, parce qu'il y a des invariants dans les caractéristiques des enseignants débutants, mais il y a aussi des invariants du métier. Et là, je résume, hein, de façon assez schématique, mais enseigner versus contrôler, c'est certainement un dilemme fondateur du travail enseignant, mais avec des façons de s'emparer de ce dilemme et éventuellement de s'en sortir. Et on voit bien que les débutants sont tellement accaparés par le contrôle qu'ils en oublient d'enseigner, alors que les plus chevronnés ont bien compris que c'était en enseignant qu'on peut contrôler. Mais là, c'est fou, parce que je le dis en une phrase comme cela, en un tour de main, mais il y a un an de formation à faire pour aider les débutants à dépasser le piège de l'hyper-contrôle pour pouvoir les mettre dans des préoccupations d'enseignement. Et c'est là qu'il y a un vrai travail à faire dans les détails. Donner les réponses versus laisser chercher. Là aussi, enfin, c'est un vrai dilemme, me semble-t-il, parce que on donne les réponses, ça va plus vite, mais est-ce que les élèves ont acquis quelque chose, ont compris ce qui était en jeu? ou est-ce qu'il faut laisser chercher? Est-ce qu'il faut envisager une sorte d'alternance de ces différentes étapes? S'adresser à la classe, se diviser en 25, je reprends ici le thème 2, aider les élèves. Est-ce qu'on peut se diviser en 25? Est-ce que le fait de se diviser en 25, c'est pas perdre complètement le contrôle de la classe? Est-ce qu'il n'y a pas ici un dilemme fondateur du travail enseignant? Donc là, on n'est pas sur un dilemme de débutant, mais bien de métier. Faire travailler en classe versus à la maison, c'est un dilemme qui actuellement occupe l'actualité chez nous. Là aussi, je fais faire ça en classe pour être sûr que ça soit fait par tout le monde. Autrement, je sais que c'est peine perdue. Séduire ou déplaire? On voit bien que enseigner est certainement un acte de relation à autrui et que les débutants, notamment, se perdent parfois dans des ambiguïtés, des ambivalences, dans leur façon d'être prof, jeune prof, en voulant avoir ces accords, cette complicité avec des adolescents. Est-ce qu'à un moment donné, dans le développement professionnel, il n'y a pas une prise de conscience chez eux qu'il faut savoir déplaire, et que parfois il faut peut-être déplaire pour plaire, en fait? Et là aussi, donc, vous voyez que ces dilemmes-là seraient à retravailler, et c'est presque un projet pour des enseignants débutants. Sur la quatrième clé, on vient de faire geste d'enseignement, configuration, on vient de parler de l'expérience avec l'ensemble de ces dilemmes, qu'on soit dans la clinique de l'activité ou dans d'autres théories, c'est vraiment une activité, j'aime pas la notion de dilemmatique, mais en tout cas qui est contrariée, riche de possibles, qu'on ne peut réaliser en même temps. Je voudrais maintenant parler de l'identité professionnelle. Et on travaille moins sur cette question-là dans nos programmes de recherche, mais malgré tout, on voit bien dans les vidéos des transformations de la façon d'être prof. Moi, je parlerais plutôt de mode d'être à la situation. On voit bien que c'est un métier où la frontière est très poreuse entre l'identité personnelle et professionnelle. Et des jeunes enseignants sont complètement submergés par les effets générés par leur métier sur leur propre personne. Beaucoup me disent « je suis à 200%, le problème c'est que j'endors pas la nuit ». J'ai plus d'espace à moi, et on voit tout le travail à faire pour ces enseignants, d'ailleurs c'est un peu le problème pour nous aussi, je sais pas si c'est simplement les débutants, mais à créer ces frontières, ces barrières, à étanchéifier un peu ces parois pour accepter des fois d'avoir des interactions négatives sans que ça dérive complètement, pollue leur propre vie personnelle. Il faut trouver la bonne présence, la bonne distance. Il y a une prise de risque objective et subjective. J'aurai des vidéos à montrer, mais je les montrerai un autre jour. Il faut s'assumer et composer avec soi-même, bien évidemment. Donc là, c'est tout un jeu identitaire qui est complexe. Je suis pas certain qu'on ait les moyens, nous-mêmes, en tant que formateurs ou chercheurs, de pouvoir les aider dans ce domaine-là. Mon discours est le suivant. Je suis pas en train de lâcher l'identité, mais de considérer que l'identité, ça peut être la conséquence du travail qu'on fait avec eux. Et que les transformations même de l'identité vont pouvoir se faire si on travaille sur les activités, sur le geste d'enseignement, sur les configurations d'activités en classe, sur tout ce qu'on va pouvoir travailler de façon tangible. On peut pas, en voyant un jeune prof, en disant « Oh, mais toi, tu le feras jamais, ça. Ça passera jamais, vu ton identité, vu ce que tu donnes à voir, etc. » Alors, bien sûr qu'on peut faire quelques remarques polies sur sa façon d'être devant les élèves. Mais qu'avant, il me semble qu'on peut s'intéresser au travail et faire en sorte que le travail, progressivement, leur permette de construire une identité au travail. Des micro-identités dans des situations dans lesquelles ils vont se sentir rassurés, stabilisés, etc. Voilà. Alors, en fait, je le résume en deux schémas et j'ai une conclusion, ça va être terminé. On s'aperçoit que souvent, les enseignants débutants sont focalisés sur leurs expériences positives et négatives, critiques, et que la première année, mais pas seulement, c'est vraiment un flux d'expériences critiques avec des seuils tolérables, pas tolérables. Et tous les débutants passent par ces états-là. J'ai une thèse en cours de quelqu'un qui a travaillé au quotidien pendant une année dans un établissement et qui a pu repérer des évaluations subjectives du confort-inconfort au travail. Et là, ça va sur une échelle de moins 3 à plus 3, ça va de moins 3 à plus 3 à moins 3, avec des fluctuations incroyables du ressenti professionnel dans les situations toujours critiques, avec des remises en cause violentes. Et c'est vrai que souvent, les jeunes profs en restent là, ne se focalisent pas sur les déterminants de ces situations un peu difficiles, mais sur les effets. C'est-à-dire qu'ils prennent de pleine tête cette fluctuation-là. Et ça a des conséquences sur leur identité. C'est-à-dire qu'ici, ils se posent des questions, ils doutent de façon profonde par rapport aux situations. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être deux impensés dans la situation. C'est ces deux clés que j'ai essayé de mettre en avant. Ces gestes d'enseignement, ces configurations d'activités en phase avec les programmes qui sont énoncés, qui sont peut-être deux niveaux de l'activité, qui sont impensés en formation, pas suffisamment mis en avant. Et il me semble que dans notre programme de recherche, on essaye d'avoir cette double valence à la fois ergonomique, vous voyez, au sens de confort au travail, de comprendre les phénomènes vécus par les personnes, pour qu'ils trouvent leur équilibre au travail, avec parfois des équilibres provisoires. On insistera beaucoup sur ces transitions, sur ces phases, sur ces phénomènes de stabilité et instabilité. Parfois, vous êtes très bien dans le travail. 6 mois après, plus du tout. On voit bien ces bascules à tout âge, à tout moment du développement professionnel. Donc, ce que j'essaye de dire là, c'est que peut-être qu'au niveau de la formation, il faut repérer ces déterminants qui vont fonder progressivement, qui vont restabiliser les expériences et contribuer progressivement à l'identité au travail. Donc, je résume encore une fois avec un schéma un peu plus exotique. Si je m'intéresse au développement professionnel, trop rapidement, on passe du vécu professionnel, qui est donc le processus de développement, à l'identité, qui est pour moi le produit du développement. Et on ne prend pas assez en compte ce qui structure ce vécu, donc les configurations d'activité, les gestes d'enseignement, les savoirs enseignés, les savoirs pour enseigner. Il me semble que là, pour pouvoir aider les jeunes enseignants, il faut arriver à, dans les clés, pardon, il faut arriver dans nos clés d'aide, de compréhension, à pointer ces niveaux d'activité, micro et macro, pour pouvoir les aider. Voilà, conclusion provisoire, puisque je suis moi-même en développement, ça se voit, sur des sujets sur lesquels c'est pas évident d'arriver à identifier du développement au niveau de la recherche et essayer d'y réfléchir au niveau de la formation, des effets générés. Je propose 3 ou 4 pistes, en tout cas, qui sont simplement des points d'interrogation et éventuellement des pistes de réflexion à venir. Il me semble important donc de comprendre la transformation de l'activité professionnelle à plusieurs échelles. Je viens de dire, expérience, identité, micro-gestes et macro-gestes, macro-activité, mais aussi savoir enseigner, savoir pour enseigner, pour ne pas oublier la valence ergonomique et la valence académique, disciplinaire. Rien n'est jamais figé. Lorsqu'on travaille avec ces enseignants débutants, on voit du développement, on voit des moments de tension, on voit des jeunes qui sont bien dans leur peau, puis tout d'un coup, qui se retrouvent perdus par rapport à ces... Donc il faut arriver à comprendre ça, non pas en singularisant et en culpabilisant les débutants, mais au contraire, en montrant des éléments génériques. J'essaye de faire ça, de montrer de la caractéristique débutante générique. Il me semble que vous, en tant que formateur, vous devez avoir quand même quelques notions sur cela, pour pouvoir comprendre, en disant ben, ça se passe comme ça, de façon ordinaire, et puis comprendre un peu ces étapes de développement. Il me semble que l'important, c'est de développer cette, Simon aime bien ce terme-là, acuité réflexive, pour qu'il y ait une exigence de développement, c'est-à-dire que les formateurs ne soient pas les seuls à impulser ou à insuffler du développement, ou des projets de développement, alors non pas idéalistes, mais au contraire réalistes, mais que progressivement, en s'emparant de néopass action, en s'emparant d'outils qu'on va pouvoir construire avec eux, quelle que soit l'origine de l'outil, que ce soit un outil lié à un courant théorique ou qu'au contraire, ce soit un outil complètement hybride, bricolé par vos soins, il faut qu'on puisse renvoyer des feedbacks de leur activité en s'appuyant sur des traces d'activité, sur des observables, qu'on prenne le temps de dialoguer avec eux sur des constats, sur des effets, sur des expériences et sur des gestes d'enseignement. J'espère que j'ai mis ça un peu en avant ce matin. Pour qu'on puisse développer avec eux cette acuité réflexive. Ça marche. Dans telle situation, à tel moment, à condition que je fasse comme ça et comme ça. Donc à chaque fois, on peut repérer un outil, une façon de faire la classe, mais en repérant les conditions qui favorisent cela et en étant très prudent. Et vous avez vu que dans Néopass, il n'y a pas de bonne pratique. C'est de la controverse professionnelle permanente. Mais il ne faut pas qu'on perde nos étudiants ou nos stagiaires ou nos débutants par rapport à ça en renvoyant ça dans une sorte de, vous voyez, d'impossibilité d'identifier des gestes professionnels qui tiennent. Parce qu'il y a des gestes robustes. Et il me semble que notre observatoire peut être conservatoire de gestes, non pas de bonnes pratiques, mais de gestes robustes sur lesquels ils vont s'appuyer. De configuration, la configuration que j'ai montrée de Lucie ou celle de Romain, on peut en lister 15. Et avec votre expertise dans votre domaine disciplinaire, vous pouvez en identifier 5-6 qui marchent bien, qui sont des formats robustes d'entrée en classe, de mise au travail des élèves, d'alternance des situations. Il me semble qu'on a, en termes d'héritage, et puis on ne peut pas laisser les jeunes inventer en permanence. C'est à nous quand même de montrer le métier, de montrer des choses qui marchent, pas des bonnes pratiques, mais quand même des choses qui sont, sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Et c'est eux qui vont après pouvoir s'en affranchir, qui vont pouvoir s'en inventer d'autres éléments, bricoler, inventer. Voilà. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il y a une difficulté croissante du travail enseignant ? Je pense. C'est un travail qui devient de plus en plus collectif, avec des coordinations multiples, avec... Je refais pas toutes les analyses sociologiques, hein, vous les connaissez. Mais on a aussi de nouveaux enseignants, on est dans une nouvelle société avec des nouveaux rapports au savoir. Et je pense qu'il faut construire de nouveaux métiers, à la fois pour les débutants, parce que... Je suis peut-être un peu paradoxal, là, mais je suis en train de dire qu'il faut leur donner quand même un certain nombre de clés qui sont les vôtres pour pouvoir être efficace dans l'action. Mais aussi, il faut leur donner une marge de manœuvre, une marge de créativité. Et puis vous avez peut-être aussi à inventer de nouveaux métiers pour les accompagner. Tous ces métiers intermédiaires où on ne va pas être prof universitaire à dire comment faire, parce que ça, je crois que c'est un discours qui ne passe plus, on n'est pas là pour ça. Mais il faut créer tous ces métiers intermédiaires avec ces nouveaux médias, peut-être cette plateforme Néopass et d'autres, bien évidemment, pour pouvoir construire ces outils, construire cette intelligence de l'action pour que eux, dans quelques années, quand vous ne serez plus là, ils aient toujours ces petites diodes de rouge qui s'allument en disant « Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait là ? Est-ce que je ne peux pas me remettre en cause par rapport à ce que je viens de faire ?» Qu'ils aient toujours cette exigence au fur et à mesure de leur développement professionnel.